It's 1,000 leagues from here to the wall. And winter is coming.
George R.R. Martin a dit « L'art n'est pas une démocratie. Les gens n'ont pas le pouvoir de voter pour décider de la fin. »
Find my dragons.
There is only one god.
You know nothing, Jon Snow.
Is dead.
Kill them all!
Winter is coming.
Power resides where men believe it resides.
Qui pour occuper le trône de fer? La question occupe les esprits et pourtant, il nous faut l'avouer, we know nothing. Et ça ne nous empêche pas d'en parler, d'échafauder des théories que l'on ne manquera pas de voir s'écrouler. Comment clore cette saga en beauté? Quels sont les enjeux de ce final? Et surtout, que va-t-il se passer après?
The Iron Throne is mine and I will take it.
I am the king!
The Iron Throne is mine, by right.
If you sat on the Iron Throne, would you spread misery throughout the land?
I will never sit on the Iron Throne.
No, you won't.
Charlotte Bloom, qui voyez-vous sur le trône? Au début, je me disais, ça va être soit une des deux sœurs Stark, Arya Sansa, soit Cersei, ou soit Daenerys. Or, je pense qu'Arya s'en fout du pouvoir. Elle a sa kill list, elle va finir sa kill list, elle a des gens à tuer, c'est ça son but dans la vie, c'est prendre sa revanche, je pense que le pouvoir, elle s'en fout. Sansa, elle a toujours voulu être une princesse, elle a toujours voulu être aimée, regardée, respectée. Je la vois bien se dire « Ouh, il a l'air confortable, ce trône fait en épée et en fer !» Daenerys, clairement, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Mais elle est un peu trop idéaliste pour moi. Même si dans la saison 7, on commence à montrer qu'elle peut faire brûler des gens qui veulent pas plier le genou devant elle et lui prêter allégeance. Donc, faut pas oublier qu'elle est descendante du roi fou. Et puis, pour ce qui est de Cersei, on n'a pas oublié la prophétie de Maggie la grenouille qui lui dirait qu'elle verrait une femme plus jeune qu'elle sur le trône et qu'elle regarderait quelqu'un d'autre sur le trône et qu'elle mourrait. Donc, je me dis qu'à la fin, ça va se jouer entre Daenerys et Sansa. Et ce qui serait vraiment cool, ce soit que ce soit les deux.
Marie Turcan, qui voyez-vous sur le trône?
Moi.
Vous n'êtes pas apparue dans la série jusqu'à preuve du contraire.
Que vous croyez. Qui j'aimerais voir accéder au trône? Moi, j'aimerais voir Sansa, mais qui je pense qu'elle sera au trône? Je pense que ce sera Arya. Je pense qu'elle a été, c'est un personnage qui a été construit pour la gagne.
Nicolas Allard, qui voyez-vous sur le trône?
Alors, y aura-t-il un trône de fer encore à la fin de la série? Puisqu'on peut estimer qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité qu'effectivement le trône soit occupé par quelqu'un. Dans ce cas-là, moi j'ai une favorite qui serait Daenerys, parce que je pense que c'est quand même le plus cohérent par rapport à tout ce que la série a pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Donc la deuxième théorie, c'est que finalement on s'aperçoive que ce trône de fer qui a été tant convoité, sur lequel on a projeté finalement tant de fantasmes, ne soit pas le bon système politique et qu'on revienne plutôt à une sorte d'état fédéral. Dans ce cas-là, le trône de fer serait détruit, disparaîtrait à la fin de la série et la boucle serait bouclée.
Perrine Kenson, qui va monter sur le trône?
En attendant que le petit bébé, clairement elle est enceinte cette bonne Daenerys, ils ont couché ensemble dans un bateau. Donc en attendant que l'enfant de Daenerys et de Jon Snow grandissent, je ne vois pas les parents survivre, mais je vois bien une famille un peu recomposée qui va élever cet enfant. Il y aurait Sansa en régente, d'une certaine façon, en attendant que l'enfant grandisse. Tyrion pour la sagesse et Sœur Davos, parce qu'il a un côté très maternel quand même, c'est quand même le seul personnage qui a accompagné des enfants pendant toute la série et qui à chaque fois a été un bon père de substitution.
Selon vous, Christophe Germier, qui va monter sur le trône?
Question épineuse. Ça dépend dans la série ou dans la saga littéraire.
Les deux, mon capitaine.
Alors, dans la série, il y a quand même de fortes probabilités que ce soit Daenerys qui finisse sur le trône. Pas à l'abri d'une surprise. Dans les livres, c'est un peu plus confus parce que Daenerys déjà n'est pas encore arrivée en Westeros, donc elle n'est pas encore sur le même continent. Il y a un prétendant qui a été gommé par la série, un Targaryen caché, donc un troisième Targaryen qui s'appelle Aegon. Donc du coup, dans la série, ils ont fait le choix que ce soit le prénom de Jon, donc ils ont mis les deux personnages ensemble. Après, on va savoir si dans la série, le Jon Snow de la série acceptera de monter sur un trône qui pourrait lui revenir de droit ou va préférer rester tout seul dans le nord parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud en bas. On ne sait jamais.
Renan Crowe, d'après vous, qui va monter sur le trône?
Je vous dirais bien personne pour être un peu punk comme ça et le trône va se lever et partir. Dans une vision pessimiste du monde, le roi de la nuit? Sinon, je pense, hélas, malheureusement, qu'on va avoir une fin plutôt positive et qu'on aura le couple d'amoureux sur le trône et que tout ira bien et finira bien dans le monde de Westeros.
Marianne Chaillant, qui voyez-vous sur le trône?
George Martin a annoncé qu'il voulait faire une fin à Game of Thrones qui ressemble à la fin du Seigneur des Anneaux, dont il est lui-même un très grand lecteur et fan. Et cette fin du Seigneur des Anneaux est douce amère, c'est-à-dire que ça finit bien, mais c'est pas non plus la grande joie, quoi. Si la fin de la série suivait la directive de George Martin, c'est-à-dire le doux amer, on ne peut pas voir une victoire de Jon et Daenerys. Les deux ensemble, ça serait trop beau. Donc, soit c'est l'un et l'autre est mort, voilà, ça pourrait être ça. D'ailleurs, il y a une légende, on dit que Jon serait Azor Ahai. Il y a eu une première longue nuit dans Game of Thrones, les marcheurs blancs sont déjà venus une fois, ils ont été repoussés par un type qui s'appelait Azor Ahai, et on a prophétisé son retour. Ça devrait être Jon. Il se trouve que cette Azor Ahai a pu repousser les marcheurs blancs avec une épée qui était puissante parce qu'elle avait été trempée dans le sang de la personne qui lui était le plus chère au monde. Si Jon était Azor, alors peut-être faudrait-il que Daenerys se sacrifie pour que Jon puisse vaincre le roi de la nuit. Ça peut être ça. Daenerys peut mourir en accouchant, puisqu'on la suppose enceinte. Mais j'ai revu toute la série comme les fans, là, pour me mettre...
évidemment.
Pour me mettre, voilà. Et j'ai été surprise d'un personnage que j'avais pas beaucoup regardé, parce que je le détestais, il faut le dire, au début. Et en regardant la série, je me dis, mais mon Dieu, ce personnage, en fait... Toute la série est construite pour montrer son éducation. Et c'est quelqu'un qui apprend tout au long de la saga et qui maintenant est prêt à régner, c'est Sansa Stark. Je me dis qu'elle colle parfaitement au doux amer. Si Sansa Stark gagne, c'est bien, c'est une Stark. En même temps, c'est pas, on l'adore pas, quoi. On se rappelle des débuts, c'est pas génial, voilà. Je pense que s'ils veulent être plutôt consensuels, ils feront gagner Jon. Et s'ils veulent être un peu originaux, il se passera un drame, peut-être une sorte de noce pourpre terrible, et Sansa montera sur le trône.
Kit Harington, qui va s'asseoir sur le trône?
No comment.
Mais en fait, vous n'êtes autorisé à rien dire.
Tout ce que je dis, même comme blague, ça va être pris sérieusement. Donc, il faut que j'ai fait des blagues à ce propos précédemment et ça m'a attiré des soucis.
Do you want to be a queen?
No. I want to be the queen.
Comment est-ce qu'on clôt une saga qui plus est quand elle rend les gens complètement dingues comme c'est le cas pour Game of Thrones?
C'est vraiment la grosse difficulté et en plus des séries comme ça qui ont déchaîné les foules, déchaîné les théories, déchaîné les amours, les émotions, il n'y en a pas eu 50 000 en fait. Hein. Quand j'y réfléchis, vraiment concrètement, à part Lost, qui combinait comme Game of Thrones l'amour, le mystère, le fantastique et qui du coup nous alpaguait de tous les côtés. Quoi. On avait 50 raisons d'aimer cette série. Eh ben, je pense qu'on dit encore We Have to Go Back toutes les semaines. Ça fait 10 piges qu'on dit We Have to Go Back. Et je pense que We Have to Go Back to Game of Thrones aussi. Ça va être très très dur de le finir. Alors pour nous, spectateurs, on sait qu'il y aura des spin-offs et des choses qui vont se passer derrière. On n'a pas trop peur. Je pense que c'est plus dur pour la chaîne qui diffuse de se dire ce truc merveilleux qu'on a créé, qui a rempli les caisses, qui a satisfait le monde entier. On va l'arrêter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après, je trouve que c'est valeureux de l'arrêter, en fait, parce qu'elle aurait pu durer 15 piges, hein, c'est pas un problème. Là, elle s'arrête en saison 8, avec moins d'épisodes, il y en a que 6. Enfin, il y a eu des décisions très intelligentes qui ont été prises pour clôturer en beauté et avant qu'elle ne s'essouffle, cette série-là.
Nicolas Allard.
Je pense que c'est une tâche extrêmement compliquée et qu'on peut dire que par essence, il y aura des spectateurs déçus et ça, c'est normal. On ne peut parce que les attentes sont tellement grandes, les possibilités de conclusion sont tellement élevées que chacun, au fond, se forge son propre dénouement et je crois qu'il sera très difficile de contenter tout le monde. Et au fond, c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose puisque une fin qui contenterait tout le monde peut-être serait une fin qui ne prendrait pas suffisamment de risques qui ne seraient pas à l'image de ce qu'a été justement cette série. Donc je crois que la déception sera de toute façon là, mais elle sera plus ou moins limitée en fonction des personnes.
Charlotte Bloom, en fait là, le plus gros challenge, ça va être de continuer à satisfaire un nouveau public qui a été sur HBO, parce que c'est une série extrêmement cross-générationnelle. Tout le monde la regarde. Des enfants beaucoup trop jeunes pour regarder ça, jusqu'à des mamies et des papis. Donc en gros, toute la population, tous les âges regardent cette série, ça veut dire que tous ces gens-là, c'est un public potentiel pour leur faire découvrir de nouvelles choses. Donc, il ne va pas falloir les perdre. Il ne va pas falloir oublier, quand on écrit de nouvelles séries sur HBO ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a évidemment pas qu'HBO qui a profité de l'engouement de Game of Thrones, tout le monde en a profité. Il ne va pas falloir oublier et continuer à se centrer sur des trentenaires ou des quarantenaires. Il va falloir continuer à écrire pour le monde entier.
Qu'est-ce qu'on sait du spin-off?
qu'est-ce qu'on sait des spin-offs? Parce qu'on en a, on est déjà à 5 et ça n'a pas encore commencé. Hein. Donc, il y a plein de choses qui sont pas concrètes sur les spin-offs. Le plus concret, alors, il a un titre de travail qui est The Long Night, La Longue Nuit, donc qui est chapeauté évidemment par George Martin et Jane Goldman, qui était co-scénariste de Kick-Ass et Kingsman. C'est un préquel sur la naissance des Marcheurs Blancs, donc un des mystères de la série, sur l'origine des Stark et sur les secrets de Westeros qui se situeraient entre 5000 et 10 000 avant Game of Thrones. La première actrice qui a été annoncée, c'est Naomi Watts, qui, après Twin Peaks, saison 3, se refait un petit coup de série. Et on annonce un tournage pour octobre de cette année. Et le deuxième, qui est à peu près clair, il va s'appeler Empire of Ash, et lui va parler de l'Empire Valérien, et du passé des Valériens.
Les moyens mis en œuvre pour garder le ou les secrets sont-ils efficaces, ou en tout cas à la hauteur de l'attente?
Bah oui, HBO a mis beaucoup de moyens en place. Alors chaque année, on a l'impression qu'il y aura plus de fuites parce qu'ils ont globalement embauché 8 agents secrets pour chaque acteur pour les faire taire et faire signer des NDA avec leur sang. Et puis et en fait, à chaque fois, il y a des fuites. Mais à chaque fois, quoi. Je crois qu'il y a 2 ans, il y a eu carrément 3 épisodes qui ont leaké totalement. Moi, je me souviens d'avoir vu un épisode où il n'y avait pas d'effets spéciaux encore. T'avais un fond vert, Jon Snow qui brandit ses gens un maillet avec marqué effet spécial dessus. Donc en plus, c'est con parce que tu perds vraiment de l'envie de regarder, enfin tu perds des choses dans la série. Mais là par exemple, il y a déjà un youtubeur qui s'appelle Freaky Doctor, qui est un espagnol, qui a posté une vidéo sur YouTube où il raconte tout l'épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones. Et en fait, ce mec, il est spécialiste parce qu'il a un contact chez HBO Espagne depuis longtemps, qui lui file les infos. Et donc, il est malin, il veut pas risquer de se faire striker sa vidéo sur YouTube, donc il ne met aucune image, mais il se filme pendant 18 minutes et il raconte tout ce qui va se passer. Et donc, là, pour la première fois, sa vidéo est restée en ligne 12 heures et elle a été retirée par demande de HBO. Et pourtant, on ne sait pas sur quelle base ils se sont basés, parce qu'il n'y a aucune image, aucun son de la série dans la vidéo de ce type. Donc il va réessayer là d'en remettre en ligne une, mais c'est intéressant, ça montre que là, Game of Thrones devient un phénomène beaucoup plus large. Si HBO arrive à contourner la loi de YouTube et à faire retirer une vidéo sur aucun principe en fait, parce que le principe c'est juste un homme raconte des choses, mais en fait vu que lui ça fait 3 ans que quand il raconte des choses, bah c'est vrai, les gens l'écoutent.
Comment on évite de se faire spoiler?
Ah, c'est une excellente question parce que numerama.com y a répondu en faisant un guide sur internet de comment lutter contre le divulgachage, comme on l'appelle. Il y a beaucoup d'outils en fait que vous pouvez utiliser, notamment sur Twitter où il y a les mots-clés qui sont facilement cachables, mais il y a aussi des extensions qui existent à rajouter sur votre navigateur Chrome qui permettent de cacher tous les mots Game of Thrones sur Facebook par exemple, ou de les remplacer par des chatons, ça c'est marrant aussi. On peut remplacer pas mal de choses comme ça. Donc vous pouvez il y a vraiment des moyens de rendre safe son univers, notamment le lundi matin, parce que le lundi matin vous allez avoir les gens qui ont regardé sur OCS à 3h du matin en direct, il y aura les gens qui se sont levés à 6h du matin pour pirater l'épisode ou le regarder très légalement, et ensuite toute la journée il y a les gens qui vont prendre leur pause de midi pour s'enfermer pour regarder l'épisode, et en fait à un moment tout le monde aura vu cet épisode avant vous, et vous allez arriver lundi soir chez vous et ça va être un peu galère. Donc, alors moi, je me fiche un peu d'être spoilée, pour être honnête. Je trouve que, enfin, pour le coup, c'est un luxe qu'on n'a plus beaucoup. Alors, c'est super si vous y arrivez, mais je pense que j'ai appris à apprécier des séries différemment, disons. C'est pas vraiment un choix, mais je trouve que c'est un choix qui me rend beaucoup plus sereine, plutôt que de me dire que je vais cacher tous les hashtags Game of Thrones, Jon Snow, GOT, Red Wedding, Clegane Bowl. Enfin, il y a tellement de choses à cacher, il y a vraiment beaucoup de mots-clés, quoi. Donc en fait, ça peut venir de partout, et en fait, j'ai pas envie non plus de louper les conversations avec mes amis.